I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 381, nous sommes en décembre 2020, je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler des États-Unis qui se mettent véritablement à chercher des noises, je me date un peu en utilisant cette expression, à Facebook. Il y a une action en justice du gouvernement américain qui pourrait aller quelque part. On va aussi parler de Disney+, qui commence son inexorable montée des prix, les AirPods Max évidemment, évidemment, Free Mobile qui complète l'offre de la 5G en France avec ses annonces d'aujourd'hui et tout un tas d'autres choses. C'est l'épisode, c'est l'émission où on parle de la tech et on est là avec vous. On va vous résumer, vous simplifier tout ça et vous aider à comprendre tout ce qui se passe. Je dis « on » parce que je ne suis pas le seul. Je ne sais plus si j'ai dit mon nom, je suis Patrick Béja. Mais je suis accompagné de deux formidables connaisseurs de la chose technologique. D'une part, Mélinda Davansoulas, comment ça va Mélinda? Est-ce que tu es en forme?
Écoute, ça va très bien. Je suis toujours chez moi au chaud et je suis en forme. Donc ça va.
C'est pas mal quand même le confinement. Hein. On est tranquille à la maison, on fait des podcasts avec les amis. Moi, je trouve que ça n'a pas forcément que des mauvais côtés. Hein.
C'est pas mal, tu vois, surtout l'hiver, on est bien comme ça, ça fait une bonne raison de rester au chaud.
Oui, exactement. On a également qui nous rejoint de Suisse, j'allais dire de sa Suisse natale, mais je ne suis pas sûr que ça soit le cas, Benoît Curdi, l'instigateur de Niptech. Comment ça va Benoît?
Très très bien, oui, effectivement, Suisse natale, très bien aussi, pas de soucis, et effectivement, vive le télétravail.
Je parlais, avant qu'on lance l'enregistrement de l'émission, on parlait avec la chatroom. Bonjour d'ailleurs à la chatroom, salut à tous, merci d'être avec nous. De l'épisode 344 qu'on avait fait ensemble, on parlait de l'administration et de la confrontation entre les méthodes de travail du public et du privé, puisque tu travailles maintenant dans le public, et les avantages, les inconvénients, les choses intéressantes qu'on avait pu noter. Ça m'a rappelé à quel point cet épisode était passionnant. Donc, si vous aimez la douce voix de Benoît, vous pouvez le retrouver dans l'épisode 344 du Rendez-vous Tech. Et en plus, vous apprendrez des choses intéressantes. Je vais, avant qu'on se lance dans l'émission en propre, quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, c'est la moindre des choses. Je vais remercier Piscovi, Jay, Paul Dwadge, Jérémy Dimino, Nicolas Baligan, Steak52, Frédéric André, Oswald Maskens, Yves Campmas, Gaël Schins et les producteurs de l'émission, Davidar Lancelot, Marie Eldehéry, Bruno S. et Stéphane Loiret. Lioret, décidément, j'arrive pas à lire les noms aujourd'hui, toutes mes excuses, Stéphane Lioret. C'est les producteurs, les quatre derniers, qui ont remercié tous les mois dans l'émission parce qu'ils sont tellement incroyables et merveilleux qu'on est obligé de les remercier tous les mois. Merci à vous tous. Si vous êtes intéressés par l'idée de soutenir cette émission qui vous fait passer de bons moments, c'est sur patreon.com/rdvtech. C'est compliqué de gérer tout en même temps, hein, entre Twitch, les invités, les trucs à mentionner et les gens à remercier et les sujets à ne pas oublier. Ça fait beaucoup de choses, mais on va se ressaisir parce que c'est un sujet sérieux. J'imagine que ça vous a complètement choqué, vous aussi, Benoît et Mélinda. Des attorney general, donc des sortes de, comment dire, ministres de la justice des États américains. Donc, il y en a 46 qui sont déjà dans l'affaire et 11 de plus qui veulent rejoindre l'opération. Ça fait plus que 51, ça. J'ai dû faire une erreur de quelque part, en tout cas, une énorme partie. Je crois qu'en tout, c'est 46, c'est ça, parce que c'est En gros, il y a presque la totalité des États américains, plus la FTC, la Federal Trading Commission, qui est inclus dans ce procès. Un procès contre Facebook qui repose essentiellement sur l'idée qu'ils ont eu des pratiques anticoncurrentielles et qu'ils ont soit nuit à des concurrents, soit copié leurs fonctionnalités en leur... Ah, ça c'est la, le discours de la Commission fédérale américaine. Soit qu'ils ont copié des fonctionnalités de manière à les couler, soit carrément, et c'est le plus gros problème, qu'ils ont racheté leurs concurrents potentiels, ce qui va à l'encontre d'une loi qui s'appelle le Sherman Act, qui est vraiment, pour le coup, problématique et qui pourrait avoir... C'est rare que je dise ça, mais on est un petit peu au point culminant d'une tendance qu'on note dans l'émission depuis peut-être, je dirais, un an et demi, deux ans, au point culminant de cette tendance qui est que les États-Unis, les hommes et femmes politiques américains ont changé d'attitude par rapport aux réseaux sociaux, pas seulement pour des questions de qui censure qui, mais aussi pour des questions de concurrence. Et cette action juridique pourrait véritablement mener quelque part. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, tous les deux. Peut-être que je vais poser la question à Benoît. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression, le sentiment qu'on peut dire là, c'est du sérieux, quoi. Ils ne font pas ça pour le show, c'est pas inviter les présidents des sociétés au Sénat pour témoigner, en fait, pour avoir des petits extraits à montrer lors des prochaines élections pour convaincre leurs électeurs qu'ils ont été durs avec la tech. Là, c'est sérieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Non, effectivement, et voilà, on parle d'administration, donc ça m'a beaucoup réjoui comme thème. Ici, il faut voir, effectivement, hein, ça vient de la Federal Trade Commission, et ça fait environ 40 ans qu'on a quand même une doctrine depuis les années Reagan qui est beaucoup plus restrictive en termes de droit de la concurrence aux États-Unis, restrictive dans le sens pour l'administration, tu vois, déjà comme je me mets du point de vue de l'administration, donc beaucoup plus favorable, disons, au monopole. Et c'est vrai qu'ici, on voit quelque chose qui, à mon avis, est aussi un ballon d'essai pour voir un petit peu à quel point on est dans une nouvelle ère qui commence ou pas. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Et la question qui se pose, c'est qui souffre, disons, des pratiques de Facebook. Jusqu'à maintenant, on avait cette vision de l'école de Chicago qui se basait sur le prix, en disant, si les consommateurs doivent payer plus, alors il y a un dommage, donc on peut agir. Et maintenant, évidemment, avec le monde digital, c'est plus le cas. Donc, on est dans une nouvelle ère. Et si vous écoutez ce que disent les procureurs généraux, ils disent clairement, on restreint le choix et on empêche l'innovation. Donc, en fait, c'est là où ça va se jouer et je trouve ça hyper intéressant, ce changement de paradigme.
C'est un point très important que tu soulignes. Traditionnellement, aux États-Unis, la mesure d'une pratique anticoncurrentielle, c'est est-ce que ça nuit aux consommateurs ? Alors qu'en Europe, un élément qu'on prend en compte aussi, c'est est-ce que ça nuit à des compétiteurs ? Véritablement. Alors, bien sûr, est-ce que ça nuit aux consommateurs ? S'il y a moins de compétition par effet de rebond et de ricochet, ça peut vouloir dire que ça nuit aux consommateurs, mais c'est beaucoup plus difficile à prouver. Alors qu'en Europe, on a souvent cet élément qui est pris en compte dès le départ, est-ce que ça a empêché de la compétition ? Et clairement, dans le procès qui est très bien préparé, contrairement à ce qu'on a pu voir les mois et les années précédentes, qui est très bien préparé, qui est très bien ficelé, cet élément et semble être pris en compte. Et le fait que Facebook, alors on parle essentiellement de Facebook dans ce procès, le fait que Facebook ait racheté Instagram et WhatsApp est un élément essentiel de la réflexion. Et ça sous-tend toute la conclusion que, bah oui, on n'arrive plus à avoir de concurrence. Et ces grandes sociétés, ils ont des emails et des communications de Mark Zuckerberg et des hauts placés de Facebook qui disent spécifiquement, c'est le smoking gun, quoi. C'est le flingue qui a été utilisé pour le crime, ils l'ont. des citations de Zuckerberg qui dit « Ouais, ouais, non, mais il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on les rachète. Enfin, il faut qu'on fasse un truc parce qu'ils vont devenir nos concurrents dans X temps. » Il pensait peut-être à Instagram, peut-être à WhatsApp ou peut-être à d'autres. Melinda, est-ce que tu crois que c'est quelque chose de solide cette fois-ci?
Moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, le rachat d'Instagram ou de WhatsApp, donc là, qui ont été mis en avant, Facebook, ils ont racheté une soixantaine d'entreprises, en gros, de start-up depuis ces dernières années. Instagram, ils l'ont racheté en 2012, WhatsApp en 2014, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on a vu ça toutes ces années. C'est des choses qu'on se dit depuis des années. Ils rachètent leurs concurrents pour devenir de plus en plus gros. Ils rachètent, ils copient. Enfin, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on le fait aujourd'hui. Ils le font en 2020, de choses qu'on voit depuis, allez, 5 ans, qui sont évidentes depuis 5 ans. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que dit Benoît, c'est qu'aux États-Unis, la concurrence, elle est surtout pointée du doigt quand elle porte préjudice économiquement, monétairement, financièrement. Là, on parle de choses qui sont gratuites, tu vois, pour le consommateur. Donc, c'est extrêmement difficile à jauger pour le commun. Enfin, les gens, je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas le nombre de personnes qui ne savent pas que WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook. Ils vont le réaliser là, quand les messageries vont fusionner, donc ça va être concret. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette affaire, en fait, l'importance de cette affaire, parce qu'ils ne voient pas ces entreprises comme appartenant à une seule et même personne. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et en ça, ce procès pointe du doigt quelque chose que les gens ne maîtrisent pas bien, parce que ça a des répercussions plus que financières sur comment tes données se baladent aussi. Pourquoi est-ce que tu te retrouves avec des gens que tu as en contact sur WhatsApp et qu'on te propose sur Facebook ou sur Instagram? Et je trouve que c'est ça, moi, pour moi, le qui est important, c'est comment l'utilisateur en fait se retrouve au cœur de ce procès sans vraiment sans en avoir la pleine mesure.
Le
comprendre. Parce que je trouve ça hyper tardif en fait comme démarche. Je trouve ça bien qu'il le fasse. Je comprends pas que ça n'ait pas été fait depuis des années en fait. La montée en puissance de Facebook, on la voit depuis des années en fait. Zuckerberg est le maître du monde, tu vois. Enfin, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau.
Je vois pas en fait. J'aimerais bien voir en fait comment ils vont s'en sortir de ça. Parce que c'est pareil, ils demandent à Facebook de signaler tous les rachats de plus de 10 millions de dollars. Enfin, Instagram, WhatsApp, c'est des choses qui se sont chiffrées en milliards de dollars.
Je crois qu'à l'époque, Instagram avait été racheté pour 1 milliard et on trouvait ça énorme. Ouais. Et WhatsApp a été racheté, c'était combien? 30 milliards, un truc comme ça. Enfin, un chiffre complètement ridicule.
Je sais plus, mais tu vois, c'était mesuré. Donc, leur demander 10 millions, c'est leur demander de savoir combien ils vont mettre dans le repas de fin d'année de Facebook. Quoi. Enfin, c'est très drôle. J'attends de voir en fait comment ça se goupille tout ça, parce que c'est extrêmement intéressant sur le fait de stopper en fait Facebook dans sa croissance.
Bah, c'est ça qui est.
T'as l'impression que rien ne leur échappe en fait, et je trouve que ce procès il sert à ça en fait, à poser des barrières. Comment ça va être faisable? Je pense que Facebook prépare le terrain depuis très très longtemps et qu'ils vont savoir comment se retourner en fait, parce que je vois pas pourquoi ils seraient les seuls à pas l'avoir vu venir.
C'est sûr. D'ailleurs, le rapprochement des différentes entités de Facebook, c'est peut-être une préparation à une possible demande de séparation de ces entités. C'est, disons, une tendance, tu as raison de le dire, qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas unique à Facebook. On a aujourd'hui, depuis qu'on parle des GAFA et des GAFAM, on sait bien qu'il y a 5 sociétés essentiellement dans la Silicon Valley et dans le monde. Enfin, c'est peut-être pas juste de parler de Silicon Valley, mais dans la tech américaine et dans le monde qui contrôle de plus en plus de nos activités en ligne. Et c'est pas nouveau. Bon, l'administration américaine a peut-être mis un petit peu de temps à se réveiller, mais c'est aussi des choses qui prennent du temps à mettre en place, surtout pour que ça soit bien fait. Mais une des questions qui est intéressante, pour moi, il y a 2 questions qui sont intéressantes. D'une part, une des choses qu'on reproche à Facebook, c'est d'avoir copié les fonctionnalités. Peut-être qu'ils ne le disent pas spécifiquement dans le procès, mais ils ont une stratégie, on leur reproche d'avoir une stratégie qui est « buy or bury ». Donc « buy », c'est acheter, on comprend bien. « Bury », c'est donc enterrer. C'est-à-dire qu'on va les assoiffer, les assécher et copier leurs fonctionnalités de manière à ce que, spécifiquement, on va les cibler de manière à ce que les concurrents naissants soient complètement asphyxiés. On l'a vu arriver avec Snapchat, qui, même s'ils existent encore, leur super innovation des stories s'est retrouvée un petit peu partout. Et donc, ils ont sans doute eu une croissance qui a été infléchie par cette attitude. Mais donc, il y a 2 choses qui me turlupinent. D'une part, la copie des fonctionnalités, c'est quelque chose qui existe dans la tech depuis toujours. Et heureusement, on ne peut pas dire qu'une fonctionnalité, une interface, une utilisation est copyrightable ou protégeable, parce que sinon, ça verrouille encore plus absolument tout, et on l'en a suffisamment discuté. Dans la tech, le copyright, c'est un truc qui est hyper dangereux et qui est déjà très utilisé. Donc, on ne pourrait pas dire, par exemple, les stories n'appartiennent que à Snapchat, parce que ça voudrait dire que n'importe quel fonctionnement est complètement verrouillé par la société qui l'a imaginé en premier. On ne peut plus faire évoluer les choses. Ça serait néfaste pour le progrès technologique, je pense. Et l'autre chose, c'est à quoi est-ce qu'on va arriver avec un procès comme ça ? Parce que est-ce que l'idée, ça serait de séparer Instagram et WhatsApp de Facebook, par exemple ? Est-ce que c'est ça qu'on voudrait ? Est-ce que ça aurait un effet vraiment important ? Quelle serait l'issue souhaitable de ce procès ? Je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse, moi. Donc, ça fait deux questions.
Je vais me faire l'avocat du diable sur ce truc-là, mais les rachats d'Instagram et WhatsApp, notamment, ne sont pas faits dans le dos des autorités. Des achats, des acquisitions qui ont été validées. Donc, comment est-ce que tu peux... Là-dessus, je comprends Facebook qui dit « La FTC, elle nous a validé les acquisitions ». Pourquoi est-ce qu'on devrait recommencer, repartir de zéro ? Tu vois, autant sur ce que tu dis, le copyright, il y a des choses là-dessus où ils sont attaquables, parce qu'en effet, ils ont volontairement copié des fonctionnalités pour tuer des entreprises. Autant sur les rachats, pourquoi tu leur demanderais aujourd'hui de se séparer d'Instagram et WhatsApp qu'ils ont racheté officiellement,
Que...
quoi.
Disons que légalement, c'est marrant, j'écoutais This Week in Tech hier, et ils évoquaient cet élément, et il se trouve que dans les accords donnés par la FTC au rachat, et donc au rachat, il y avait une petite ligne qui disait « mais on se réserve le droit de revoir notre jugement à... ». Bon, c'est un petit peu... Mais la situation a changé.
Tu vois, ça je comprends.
Je veux dire,
des messageries, ça je comprends tout à fait.
Mais même au-delà, la situation a changé. Donc, étant donné la situation aujourd'hui, il y a un problème de monopole et donc on n'évalue plus les... Tu vois, c'est pas forcément se dire on va inverser la décision qu'on a prise il y a quelques années. C'est plutôt se dire, maintenant, il y a un vrai problème et il y a un problème de concurrence, donc on va prendre une nouvelle décision qui va être, on vous a dit que c'était OK, mais maintenant, on va vous dire qu'il va falloir se séparer. Mais je suis même pas sûr que ça soit une bonne solution.
Mais ça peut faire du sens et je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu en arrière. Le dernier gros cas de break-up qu'il y a eu, c'était AT&T dans les années 80.
Ça date, ouais.
Mais même avant ça, je pense que l'idée, c'est de se dire, si on a assez de concurrents qui sont assez gros, ils vont devoir innover pour se différencier. Et donc, ils vont être forcés finalement de faire ce qui est bien pour les consommateurs. Et c'est ça l'idée, effectivement, l'idée. Alors, c'est compliqué, hein, moi, je suis d'accord que les séparer, ça n'a pas de sens. Mais il y a quand même une idée derrière qui n'est pas tout à fait bête et qui peut fonctionner. En tout cas, dans le passé, ça a fonctionné. Ce qu'on voit 20 ans après ou 30 ans après, c'est qu'on revient vers des monopoles. C'est une sorte de cycle infini. Ouais. Mais moi, je pense que...
Oui, parce que tu mentionnais, j'explique pour les gens qui ne connaissent pas, Benoît, pardon, mais tu parlais de AT&T, le vieux Mabel qui a fait des Baby Bells qui sont redevenus AT&T au final. En fait, la société de téléphone américaine, AT&T, a été séparée en plein de petites sociétés de téléphone qui se sont rachetées. Et au final, on est revenu à la situation d'il y a, je ne sais plus combien de temps, 40 ans aujourd'hui.
Ouais, mais peut-être pour donner un exemple qui est parlant et qui a souvent été commenté, en tout cas dans les milieux tech, c'est si la FTC demain disait à Google, eh bien maintenant on vous force à vous séparer, à Alphabet, pardon, on vous force à vous séparer de YouTube. Qu'est-ce que ferait YouTube ? La première chose que ferait YouTube, c'est un moteur de recherche parce qu'ils doivent donner accès. Ils en ont déjà un petit peu inclus, mais en gros, ça deviendrait directement un concurrent de Google. Donc, je pense que c'est ça l'idée. On peut voir ça dans plein de secteurs. Et c'est toujours aussi intéressant de voir que ça dépend le type d'intégration qu'on a. Hein. Si on forçait AWS à être séparé d'Amazon, ça serait un autre cas parce qu'ils sont dans d'autres segments au niveau de la chaîne de valeur. Mais là, les trois seraient exactement dans les mêmes... Ils se battraient pour les mêmes utilisateurs. Donc là, vraiment, moi, je suis
tu
quand même...
Tu crois qu'il y aurait un bénéfice
curieux et je pense que ça peut tout à fait arriver et que ça va prendre des années, ouais.
Ouais.
Ah, c'est vrai qu'ils sont, ouais, ils sont concurrents, les trois sont concurrents. C'est vrai que tu te demandes même pourquoi est-ce que Facebook a besoin de tout ça, si ce n'est pour tuer la concurrence. C'est vrai que c'est l'exemple même de tuer la concurrence en la rachetant.
Ouais,
parce exactement. Que Google, comme tu dis, Google et YouTube, ils sont complémentaires au moins. Ils ont cet avantage-là.
Bah, oui, mais c'est deux moteurs de recherche et je pense que si on les séparait, les deux devraient répliquer ce que fait l'autre et donc peut-être qu'il y aura un petit peu de concurrence forcée là. Il y a un autre élément qui est intéressant à noter aussi, qui est qu'on a vu l'action contre Microsoft aux États-Unis aussi il y a une vingtaine, trentaine d'années et ça n'a pas eu de résultats concrets, mais par contre, ce que ça a fait, ce que disent les gens qui ont suivi la chose de près aux États-Unis, c'est que ça a donné des sueurs froides dans le dos des responsables américains de Microsoft et notamment Bill Gates. Alors je ne suis pas sûr que les responsables des GAFAM aujourd'hui aient autant d'effets sur leur psyché quand ils sont convoqués au Sénat. En même temps, ils l'ont tellement fait que maintenant, ils commencent à être habitués, ils y vont comme à la piscine. Mais ça, rien que le fait d'avoir une histoire comme ça qui se produit, peut-être que ça peut leur faire réfléchir à deux fois avant de racheter un prochain concurrent ou de faire un truc similaire pour le futur. Un dernier truc, et puis on va avancer. Il y a des gens qui vont dire « Ah mais regardez, il y a TikTok qui a réussi, donc ça veut dire que c'est possible. » C'est vrai, TikTok, ils sont un petit peu sortis de nulle part. C'est le contre-exemple parfait du fait que la concurrence peut quand même s'exercer. Mais c'est quand même aussi une exception incroyable. C'est l'exemple qu'on peut donner dans les réseaux sociaux d'un truc qui a marché dans ces, je ne sais pas, 5 dernières années au moins et peut-être plus. Et puis, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'innovations et de sociétés qui réussissent énormément. Je vais être gentil, ces 5 dernières années, on pourrait dire ces 10 dernières années, que les 5 précédentes. Donc, je pense l'exemple de TikTok...
Ils sont basés sur Musical.ly. Hein. C'est le rachat de Musical.ly qui les a beaucoup portés aussi.
Donc complètement.
C'est sûr qu'ils ont été malins. Ouais. Ils ont été extrêmement malins. Ils ne sont pas allés chercher 50 trucs. Ils sont allés chercher l'appli qu'il leur fallait, qui marchait, qui fonctionnait dans le même esprit que le leur. C'est super malin.
C'était super malin. Ils ont clairement réussi. Ils sont devenus un acteur qui compte dans les réseaux sociaux. Mais c'est quand même un exemple. Enfin, moi, j'arriverais pas à en trouver d'autres, quoi.
Écoute, je ne suis pas certain que je mette TikTok au même niveau que WhatsApp et autres, qui sont des
réseaux sociaux. Non, mais c'est une réussite.
Oui, mais TikTok, c'est un réseau de divertissement. Tu vas pour avoir du contenu, à mon avis je le mets plus dans la catégorie des YouTube. Tu vas pas avec des amis sur YouTube, enfin tu pourrais, ils aimeraient, mais tu le fais pas. Sur TikTok la même chose, tu vas pas pour rencontrer, pour discuter avec tes amis. Donc à mon avis là il faut séparer les catégories. Je comprends pourquoi Facebook aimerait qu'on utilise TikTok comme exemple, mais à mon avis c'est pas tout à fait comparable.
D'accord. Bon, écoutez, on va suivre ça sur les années à venir. C'est vraiment un moment important, un point d'inflexion pour la manière dont on considère les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les géants de la tech et en particulier aux États-Unis. Donc, on suivra ça. En parlant de géants de la tech, je ne sais pas si vous avez vu, mais Apple aurait tué une série sur le sort de Gawker Media, une série qui s'appelait Scrapper, qui va peut-être être produite ailleurs, mais c'est marrant parce que Gawker, c'était un groupe média américain basé sur le web, et ils avaient fait plusieurs choses qui n'avaient pas plu à Apple, par différentes de leurs différents sites qu'ils possédaient, et notamment, ils avaient... mes articles du New York Times sont finis. Notamment, ils avaient... ils avaient mentionné que Tim Cook était gay il y a bien longtemps, plus de 10 ans, avant que ça ne soit vraiment, vraiment officiel. Et ils avaient surtout été dans l'affaire de l'iPhone 4 volé qui avait qui avait hérissé Steve Jobs et les gens d'Apple. C'est pas tellement pour cette histoire que c'est intéressant de le noter, mais surtout pour le fait que Apple et les autres géants de la tech sont en train de se lancer dans les médias, et du coup ils ont encore un contrôle sur une chose de plus, qui est le type de divertissement télévisé auquel on va avoir accès. Alors c'est peut-être marginal, tous ne vont pas gérer les choses de la même manière, mais c'est quand même à mettre sur le radar, je pense, c'est intéressant à noter, quoi.
C'est marrant parce que tu sais qu'Apple TV+, il faut que ce soit super lisse.
Bien sûr.
Les programmes originaux sont extrêmement lisses. Alors Ils ont donné une raison à l'annulation ou pas de ce projet? Parce que moi, je l'ai lu en diagonale, cette histoire, je l'ai su, parce que je connaissais
pas. Non, c'était pas... Alors, Gawker, c'était Gizmodo, hein, notamment, et puis il y a Valeywag, je crois, d'accord, chez Gawker. C'était un petit peu... toute la vérité est bonne à dire, tu vois. Ils s'embarrassaient assez peu d'éthique journalistique. Pas, c'est pas vrai, ils avaient quand même une certaine éthique journalistique, mais... Ils ne s'embarrassaient pas de savoir si la chose qu'ils allaient dire allait faire du mal à une personne, une société. C'était un petit peu sur cet esprit. C'est une rumeur, hein. On n'a pas clairement une annonce de quoi que ce soit, mais il semblerait que Tim Cook ne savait pas que Apple TV+ était en train de produire, était en deal avec une société de production pour acheter ce truc-là. Et quand il l'a appris, il a envoyé un mail en disant « Non, mais vous déconnez ou pas ?» Pas chez Apple, enfin, c'est non, il ne faut pas déconner.
Tu vois. Connaissant Apple, ça me paraît extrêmement crédible, cette histoire qu'il laisse pas une série qui leur aurait porté préjudice chez eux, ça ne m'étonne pas du tout.
C'est ça, parce que tu ne peux pas faire une série sur Gawker, même sans les nommer, sans parler de cet événement, peut-être pas l'histoire de Tim Cook homosexuel, mais l'iPhone 4, voilà, ils vont devoir faire le téléphone poire 2, tu vois, et puis il y a exactement la même chose, quoi. Ça aurait été bizarre de voir sur Apple TV+, je peux le comprendre. Mais pour parler des géants de la tech, Disney a monté le prix de Disney+, d'un dollar. Je pense que c'est la même chose en Europe. Dès mars 2021, le prix sera un petit peu augmenté. Il y aura un délai si vous êtes... déjà abonné, c'est la marche inexorable de Disney+, qui, au fur et à mesure qu'il rajoute du contenu, va monter ses prix. C'est pas forcément une grosse surprise, surtout que Netflix est maintenant au double du prix de Disney+ pour certains forfaits. C'est une occasion de le dire et aussi de mentionner le fait que, je ne sais pas si vous avez vu les séries qui arrivent sur Disney+, mais il y a genre 4 séries Star Wars, 4 séries, 5 séries Marvel. Enfin, c'est le bonheur total. 2021, ça va être génial. Mais bon, ça, c'est peut-être pas hyper tech, donc je le mentionne comme ça.
8,99, hein, c'est en France, je voulais dire. Enfin, en France, je crois que c'est même en Europe, c'est 8,99.
C'est déjà 8,99.
Ça va passer à 8,99. Mais ils te promettent qu'ils t'annoncent. Enfin, t'as une chaîne pour adultes, hein, t'as un Disney adulte qui arrive, t'as la version internationale du Lulu, hein, qui arrive.
Tout à fait, oui.
Adulte, d'accord.
On s'entend.
Ok.
Adulte, c'est pour ça que je précisais. Ça s'appelle Star, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
C'est en gros la déclinaison un peu Ulu qui manque quand même chez nous. Avec certains programmes, et en effet ils ont annoncé ça en même temps que une pelletée de nouvelles séries, de déclinaisons dans tous les sens de Star Wars et compagnie. Eux, ils ont bien compris dans quel nouveau monde on vivait, soyons clairs. Disney, je pense que ce sont les plus malins de l'année sur le streaming. Ils ont été certes ralentis au démarrage en Europe, en France notamment, avec le confinement, mais alors ils ont complètement tout compris, basculer leur programme, ils font rager les salles de cinéma, et basculer leurs films sur leur service, c'est malin.
Alors attention, c'est Warner Bros. Qui fait ça aux États-Unis en 2021.
Hein. Aussi, voilà.
Disney, ils avaient testé avec Mulan, ouais.
Voilà, et le film de Noël, la Soul, qui devait sortir au cinéma, arrive sur Disney+. Ils ont lancé aussi des fonctionnalités, ils testent des choses avec en tête que les gens sont chez eux, donc ont du temps à meubler. Et c'est malin, quoi. Enfin, c'est extrêmement malin.
C'est sûr que...
Mais ça augmente les tarifs.
Disons que les tarifs étaient quand même très, très bas au lancement. Et c'est normal parce qu'il y avait très, très peu de contenu. Donc, c'était un petit peu un mal pour un bien. Mais maintenant que les contenus vont arriver, on peut imaginer... Et ce n'est pas la dernière hausse de tarifs. Hein. C'est clair que je pense que d'ici 2 ans, il va y en avoir une autre. Et quand on aura toutes les séries dont on ne peut plus se passer... Et j'en entends qui rigolent dans le fond en se disant « Ah, c'est bon, les super-héros, machin, Star Wars, on en a marre, mais si c'est pas pour vous, ok. » Mais je peux vous dire que chaque vendredi, avec un nouvel épisode du Mandalorian, c'est un petit peu la fête dans les cercles de fans. Donc, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est la chaîne, enfin, le service de streaming pour les enfants et pour les fans de ces univers qui en demandent quoi qu'il arrive, qui en demandent plus. Et s'ils réussissent à faire une aussi bonne qualité que ce qu'ils ont fait avec cette série Mandalorian, je pense qu'ils vont connaître un certain succès, on va dire.
Mais tu vois ce que tu dis, excuse-moi, Benoît, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un service qui était destiné initialement aux enfants, parce qu'il y avait tout le monde des enfants, parce qu'il y avait tous les Disney, les familles. Et je pense que là, ce qu'ils veulent proposer, c'est justement parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se cantonner aux enfants et aux familles. Il leur faut un public, il leur faut le public du Mandalorian, mais sur le long terme. Et je pense que alors, ce qui est lié à l'augmentation, le changement d'offre, c'est aussi pour répondre à ça. Parce que tu peux pas, une fois que tu t'es refait toutes les princesses, toutes les Disney princesses, les séries et choses comme ça, le Mandalorian, tu fais quoi? Tu coupes ton abonnement derrière?
Ah bah bien
c'est
sûr,
ça qu'ils veulent pas, ils veulent éviter.
Évidemment.
Donc, ils ont besoin des programmes d'Hulu, des programmes, alors eux ils annoncent des programmes interdits aux moins de 18 ans, à la sauce Disney, j'attends quand même de voir
ouais. à quoi ça ressemble. Et t'auras un code PIN pour protéger l'accès et tout, c'est prévu.
Ouais, c'est ça. Mais il y a des
contenus, tu vois. Mais tout ça, on n'en a pas besoin. Il y a WandaVision le 15 janvier, il y a Falcon and Winter Soldier en mars. Tu vois, c'est juste ça dont on a besoin. Le reste, on s'en fout.
Mais c'est ça. Mais eux, ils veulent te proposer ça plus longtemps.
Bien
que
sûr,
tu restes
bien
plus
sûr.
Longtemps.
Évidemment. Je plaisante.
Vous avez quoi? Alors, vous êtes abonné à quoi? Parce que la question, effectivement, on n'a que 24 heures par jour. Donc, est-ce que vous avez Netflix et Apple et Disney et tout? Ou vous avez fait un choix? Moi, j'ai que Netflix de manière très réticente, hein, je dois dire. Mais voilà. Et vous?
Moi, j'ai tout. Je suis comme Mélina. Mais tu sais, le truc, c'est qu'il y a toujours...
Filles, hein.
Ils sont bons. J'ai tout.
Ils sont bons parce qu'il y a... Il y a toujours une série que tu as envie de voir sur l'un des services. Tu sais, c'est... Et bon, il y a deux choses. D'une part, il y a ça. Et d'autre part, le fait que, mine de rien, j'ai tout, mais tout, ça veut dire Netflix. Je crois que j'ai plus Apple TV+, mais peut-être que je l'ai encore. Il y a le truc, tu l'as un an gratuit avec ton nouvel iPhone, donc ça va.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai aussi.
C'est ça. Il y a HBO Max. Il y a Amazon Prime qui est... Enfin, Amazon Vidéo qui est avec Prime. Et puis Disney+. Si on les met tous ensemble, l'argent que je sors, c'est quoi? C'est peut-être 30 euros par mois. Alors, c'est pas rien. Mais souvenez-vous que moi, je suis assez vieux pour avoir payé le câble, quelque chose comme, je ne sais plus, 80 euros par mois avec 12 000 chaînes dont je me foutais. Là, c'est beaucoup moins. Je peux arrêter quand je veux. Si un jour, il y a un service qui ne me plaît plus ou qui ne m'intéresse plus, bah, je le coupe direct. Prime Video arrive avec le Prime, que j'ai encore, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas en France, mais parce qu'il y a tous ces petits bonus en plus. Donc, je sais qu'on dit... Encore une fois, je me date avec ces choses-là, mais on dit « Ah, tout coûte cher, il faut payer Disney+, et Netflix, et Xbox Live, et Spotify, et machin. » Les enfants, quand on achetait un CD à la FNAC avant ces services, ça coûtait 20 euros le CD. Le CD.
Là on arrive au point où tu vas nous raconter l'histoire de l'orange que tu recevais à Noël. Hein, c'est ça?
Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Bah moi, je me souviens de l'époque où je payais CanalSat et Canal, ça me coûtait une fortune. J'ai payé Canal l'abonnement à 40 euros quasiment par mois, alors que j'en regardais. Il a dû se passer presque un an sans que je regarde quoi que ce soit. Enfin, c'est vrai que, mais si je fais le total de ce que je paye, oui, je vais avoir peur comme service tous les mois. Mais comme tu dis, Amazon Prime Video, j'ai Amazon Prime, c'est inclus dedans. Apple TV+, j'ai les un an et demi offerts. Donc, dans l'absolu, je paye OCS, Netflix, Apple Music et d'autres services comme ça, et les pareils, le Game Pass et des choses comme ça. Mais c'est vrai que si on détaillait par rapport à ce qu'on mettait il y a quelques années, ouais, je pense quand même que je rentabilise.
Ouais.
Je pense quand même.
Et puis, non, et
voilà,
puis c'est même...
Disney, c'est pas moi qui regarde en priorité, mais il en faut pour tout le monde.
je vais m'y mettre là l'année prochaine, mais le truc, c'est que, tu sais, au-delà même de la question du prix et qu'est-ce qu'on paye et qu'est-ce qu'on paye pas, il y a une forme de le fantasme de la bibliothèque céleste, tu sais, des débuts du net. C'était l'idée qu'on est chez soi et on a accès à toute la connaissance du monde et tout le divertissement du monde et tout. Je paye aussi des services d'abonnement aux comics, par exemple. Je m'en sers pas énormément, mais peut-être que c'est un truc de vieux. Le fait que je puisse à tout moment décider de lancer une app et d'avoir accès à soit toutes les séries de la Terre, soit tous les... Je paye aussi un abonnement à Audible, tous les livres en audio de la Terre, tous les... Enfin, l'abonnement, c'est un livre par mois, mais sur le principe, je peux avoir accès à peu près tout. Alors, ce n'est pas les fantasmes qu'on avait à l'époque de, qui étaient naïfs au début d'Internet, où on se disait « Oh, il y aura un abonnement pour avoir accès à tout. » Ok, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais il y a quelque chose de puissant dans cette réalisation d'un fantasme qui était... Vraiment, c'est l'orange de Noël, Benoît, tu as raison, mais il y a quand même un niveau d'inimaginable dans ce qu'on a à disposition aujourd'hui par rapport à il y a seulement 20 ans qui est... pour moi, j'ai du mal à me dire « Ah ben non, je vais pas vouloir... » C'est peut-être une boulimie numérique, tu vois, mais je sais pas, le fait de me dire « Je peux avoir accès à n'importe quoi à n'importe quel moment », c'est tellement merveilleux que... Je sais pas, j'ai vraiment l'impression... Je sais pas, je suis un enfant, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, qui voit un livre, tu sais, oh, la connaissance, et ça lui... Et, sauf que là, c'est le Mandalorian avec bébé Yoda, quoi.
Mais non, mais c'est ça. Et Benoît a raison, on a passé de temps dans une journée pour tout voir. Le problème, c'est quand tu as tout ça, tu regardes tout, tu dis, oh, je voudrais voir ça, jouer ouais. à ça, jouer. Parce que moi, j'ai Apple Arcade aussi. Enfin, c'est une catastrophe.
Bien sûr, oui.
Soyons clairs, et les abonnements PS et machin, il n'y a pas assez d'heures. Et finalement, on croule sous le trop. En fait, on croule sous le trop et on ne se raisonne pas. Et ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. Voilà, c'est la mauvaise conclusion de tout ça.
Ouais.
Mais c'est génial d'avoir ça aussi. C'est génial d'avoir tout ça à dispo.
Boudons pas notre plaisir, c'est un peu sympa quand même. Bon, on va faire quoi ? On va faire une toute petite pause pour vous parler du rendez-vous jeu. Non, pas du rendez-vous jeu, on va vous parler de patreon.com/rdvtech. C'est l'endroit où vous pouvez aller soutenir le rendez-vous tech. C'est un moyen hyper cool, hyper sympa, hyper simple de soutenir une émission que vous appréciez. Si on vous apporte quelque chose, si on vous fait passer un bon moment, si ça vous fait rigoler, si ça vous informe, eh ben ça vous apporte une certaine valeur. Si vous vous dites, quand l'émission arrive dans votre app de podcast le mardi soir ou le mercredi matin, vous dites « Cool, là, mon trajet dans les transports ou mon ménage, eh ben, il va mieux se passer que le jour d'avant parce que j'ai une émission cool à écouter. Eh » ben, ça vous apporte une certaine valeur. Peut-être que vous voudriez, compenser cette valeur en donnant à votre tour une certaine valeur à son producteur. Et ça veut dire tout simplement des sous. Bien sûr, vous pouvez m'envoyer des mots doux sur Twitter ou ailleurs. Ça me fait toujours plaisir. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, devenir contributeur du Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech, et vous avez plein de bonus super cool. J'en parle régulièrement, mais non seulement vous n'avez pas les pubs dans l'émission, non seulement vous avez des bonus, des contenus bonus avec des éditos et des choses comme ça, mais en plus de ça, vous avez par exemple les time codes. Si vous voulez passer d'un moment à un autre dans l'émission, s'il y a un sujet qui vous intéresse pas trop, vous pouvez le faire avec le flux privé qui est disponible avec ces épisodes améliorés. Et évidemment, vous avez aussi la fierté de pouvoir soutenir l'émission, comme je le dis toujours, le Kling Patrick, qui est une petite pointe de culpabilité quand vous mettez les clés dans le bol en rentrant à la maison et que j'ai associé tel un génie pavlovien ce moment de votre journée à un souvenir du fait que vous ne soutenez pas l'émission, et ben ce moment pavlovien peut devenir plutôt un moment de fierté. Vous mettez la clé dans le bol et là, tout à coup, c'est oh, « Mais moi, je soutiens le rendez-vous tech. Je suis quelqu'un de formidable. » Et donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech. C'est... Le lien est dans les notes de l'émission et c'est tout simplement le meilleur moyen pour soutenir l'émission au tarif que vous souhaitez et vous pouvez payer en euros d'ailleurs. Donc patreon.com/rdvtech. On me dit dans la chatroom, Patrick, on t'aime. Je vous aime aussi tous et toutes.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La 5G est là. Free vient d'annoncer ses forfaits ce matin et c'était le dernier des opérateurs à le faire. Et donc maintenant, ça y est, la 5G est disponible. Moi, ce qui m'a surpris surtout, c'était les tarifs relativement peu élevés. Bon, du coup, de Free, c'est pas si étonnant. Ils ont c'est 25 euros pour les gens qui sont pas abonnés et 20 euros pour les clients, c'est ça. Pour 150 gigas de données mobiles, ça vaut presque le coup de les prendre juste pour être en 4G. En même temps, parce que la 5G, de toute façon, ils disent chez Free qu'ils couvrent 40% de la population en 5G. Est-ce qu'on peut y croire ? Je sais pas. Je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est pas encore pour tout de suite. Mais en tout cas, tous les opérateurs ont annoncé leur forfait 5G. Ça me paraît être un peu tôt pour y passer quand même à la 5G, non ? On n'est pas encore.
Il y a des forfaits à part pour la 5G ou c'est juste le... Parce qu'ici, on n'a pas. Donc, tu passes à la 5G dès que ton téléphone est capable de le prendre et c'est inclus dans ton abonnement, en tout cas pour moi. Donc, là, ils annoncent, en fait, tu payes à part si tu veux la 5G.
Je crois qu'il y a des forfaits...
Chez Free, c'est inclus. En fait, basculent leur réseau. Mais c'est les seuls.
Mais c'est ça. Les autres, ce n'est pas le cas. Les autres, tu as ton forfait 4G et le forfait 5G qui est plus cher, bien sûr.
Qui est un petit peu plus cher, mais ils sont en train de se battre pour faire baisser les prix. C'est assez impressionnant quand même.
En gros, SFR a commencé avec 40 euros par mois pour 80 gigas. Orange a suivi avec 39,99 pour 70 gigas, donc 10 gigas pour 1 centime en moins. Mais Bouygues a fait fort avec 24,99 pour 130 gigas. Donc oui, les prix sont déjà en train de baisser. Est-ce que ça vaut le coup si on consomme beaucoup ? Parce que j'imagine que les forfaits 4G, j'ai plus suivi depuis un moment, parce qu'en Finlande, c'est des forfaits illimités hein, pour des sommes raisonnables. Ouais. On me signale dans la chatroom que c'est 40% hors de Paris. Donc,
parce que c'est ce que j'allais te dire, parce que Paris, le problème, c'est qu'ils peuvent annoncer tous la couverture qu'ils veulent. Pour le moment, Paris, il n'y a rien.
Oui.
Paris, c'est la seule ville qui va passer à la 5G en dernier. C'est la seule grande ville qui va passer à la 5G en dernier parce qu'ils sont en train de se battre à la mairie et à coups d'arguments dans tous les sens pour ralentir au maximum. Donc, si vous êtes en dehors de Paris, il y a des endroits où vous avez plus de chances de capter la 5G que dans Paris même. pour le moment, il n'y a pas de la 5G, ce n'est pas partout non plus encore.
Mais donc, du coup, est-ce qu'il faut prendre un forfait 5G pour l'utiliser en 4G c'est intéressant au niveau de la consommation de données ? Peut-être que c'est ça le vrai plus.
Je suis pas certaine. Je suis pas certaine encore, quand même. Oui.
Je pense pas non plus.
C'est pratique si tu vas à Nice, quoi, apparemment, ou à Bordeaux, ailleurs. Écoute, maintenant qu'on peut bouger en France, tu sais, on peut l'utiliser, on peut aller tester la 5G.
Oui, exactement, c'est ça, on peut voyager, c'est le moment, non ? C'est le moment d'aller faire ça.
C'est le moment d'aller tester la 5G.
Les Niçois et les Bordelais sont contents. Apple a annoncé et sorti ses AirPods Max, qui sont donc les écouteurs, les écouteurs over the ear, comment ça s'appelle en français ? C'est des écouteurs classiques, hein. Qui sont donc des gros
écouteurs. Sur les oreilles, ça ne fait pas. Hein.
Au-dessus des oreilles.
Circumauriculaire, c'est pas très beau.
Circumauriculaire.
C'est ça le terme officiel.
D'accord, voilà. Bon, un casque audio, mais pas les petits... c'est un sans fil, mais pas les intras. Supra-auriculaire, me dit Vince dans la chatroom. Ils sont particuliers. On ne peut pas les replier. Et on a juste une sorte de petite manche dans laquelle on met les écouteurs, la partie vraiment écouteurs, et ils ne s'éteignent que quand on referme cette petite partie, mais ils ne sont pas repliés. C'est comme un petit sac à main, en fait, qu'on tient par l'anse qu'on pose sur la tête. C'est un design qui est vraiment bizarre. En plus de ça, bon, ils ont plein de fonctionnalités sympas comme les appareils Apple, comme les AirPods, comme on pouvait l'imaginer. Mais ils sont à combien c'est en France? Peut-être que je vais essayer d'aller sur apple.fr.
629 euros. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que
sans le fil.
Ce qui est intéressant, c'est que les écouteurs, les AirPods, les tout premiers, on pensait qu'ils étaient chers quand ils ont annoncé le prix, sauf que c'était le prix de ce type d'appareil à l'époque. Donc, ce n'était pas un prix qui était tellement élevé par rapport à la concurrence. Là, par contre, les écouteurs supra-auriculaires de la concurrence qui sont très bonne qualité et sans fil, ils sont 200 euros de moins, quoi, voire un petit peu moins. Alors, il y a des trucs marrants sur les AirPods. Il y a la couronne digitale comme sur l'Apple Watch qui est sans doute un contrôle parce que tous les trucs tactiles sur le côté des écouteurs, j'ai jamais aimé ça. Il y a petits coussinets qui se détachent, qui sont magnétiques. Alors ensuite, combien ça coûte pour les remplacer Mais bon, au moins, ça, c'est pas trop mal foutu. Ils ont l'air relativement confortables, etc. Mais 630 euros Enfin,
parce que même un Beats, c'est quoi? Un bon, c'est dans la moitié, c'est 300 euros. Ah bien.
Ouais, mais Beats, il y a des gens qui vont s'énerver si tu dis que c'est des bons écouteurs.
ouais. Non, mais c'est ça, c'est leur. Alors ça, je suis d'accord, mais toi, c'est donc ils doublent vraiment le.
Ouais. On est censé être sur un produit d'une autre qualité. Là, c'est plus avec les Sony Mix ou le.
Exactement.
Ou les Bose. Mais on sait tous qu'ils viennent de poser la future gamme de prix de tous ces casques, en fait. Soyons clairs. Oui, c'est plus cher. J'ose espérer que le son est au même niveau que chez Sony ou chez Bose. Parce que...
Au moins au même niveau, oui, il faut l'espérer.
Quand on se pose à 629 euros, on se positionne au même niveau, voire en deçà, que des vrais casques filaires. Hi-fi,
de studio, tu veux dire.
De studio qu'on utiliserait chez soi pour les vrais amateurs de son. Ouais. Là, il faut rappeler quand même que le casque est fourni, c'est-à-dire que c'est un sans fil ultime. Il n'y a absolument pas de fil avec un raccord jack dans l'emballage. C'est en plus, c'est 40 euros, je crois, 39 euros en plus.
Si tu veux le fil, donc, c'est un. J'ai même pas vu,
si
c'est
tu
un.
Veux le fil.
C'est un lightning ou
C'est un lightning. C'est un
D'accord.
lightning.
Mais t'as pas de port jack.
USB-C pour la charge. Voilà. Mais tu n'as pas de port jack.
Ouais.
Et eux te vendent un lightning jack si vraiment tu veux le rendre filaire. Sinon, il n'est pas du tout prévu. C'est un wireless
ouais.
total.
Ouais, ouais.
Ça déjà, ça positionne. Alors, les vrais amateurs de son vont hurler en te disant que le Bluetooth, ce n'est pas de la qualité Hi-Fi. C'est pas possible. Donc déjà, là, il y aura un point à voir lors des phases de test. Nous, on ne l'a pas encore reçu, donc on ne l'a pas encore testé. Mais déjà là, la promesse haute fidélité Bluetooth, il faut voir.
Bon, ça, disons que ce type de casque, c'est ce qu'ils proposent. Les concurrents pour cet élément sont à la même enseigne.
Évidemment. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le souci du détail qu'ils ont eu dessus. Mmh. C'est des trucs très, très bêtes de confort. C'est là-dessus où je trouve que le design, il est ce qu'il est, on aime ou on n'aime pas. Ça, je pense qu'il faut le porter en plus pour vraiment s'en apercevoir. Mais tu vois, il ne s'appelle pas AirPods pour rien. Déjà, dans le fonctionnement, tu sens qu'ils ont vraiment... Chaque oreille est indépendante sur l'écoute et sur l'usage. Moi, j'aime bien l'idée des branches télescopiques individualisées vraiment. Parce que si... Alors, en ce moment, on le fait moins, mais quand tu prends l'avion et que tu mets ce genre de casque, je pense qu'en plus, c'est vraiment un circuit, mais pas un supra. Hein. Je crois qu'il est censé t'englober vraiment totalement l'oreille et pas juste se poser dessus.
D'accord.
Le problème, c'est la pression. C'est la vraie pression sur les oreilles. Mmh. C'est ça qui est désagréable au bout d'un moment. Eux, ils te promettent qu'elle va pouvoir s'adapter. Ça, c'est intéressant. Si c'est vrai, c'est un vrai point de confort que peu de casques ont. C'est des petites... En fait, ils ont joué vraiment sur les petits détails, je pense, plus que sur la qualité du son.
Mmh.
La couronne, j'attends de voir aussi l'usage, si c'est pratique ou pas. Moi, je sais que je suis pas une grande fan des contrôles tactiles en dessous, par exemple, je trouve ça toujours galère quand ils sont en dessous. Au-dessus, on va voir. Mais voilà, il y a un souci du détail. J'attends de voir vraiment ça pour comprendre en quoi ça justifie le prix qui est quand même délirant, notamment en euros. Quoi. Mmh.
Donc, ouais, on est d'accord. Moi, j'ai acheté pour remplacer mon Quiet Comfort 15 de l'époque, j'ai acheté un 700. les fans de Bose connaîtront. C'est l'un des concurrents avec le Sony, on va dire, les deux qu'on mentionne le plus souvent. Et je l'ai payé, je ne sais plus, 350 €. Ça m'a fait mal. Tu vois, tu te dis déjà 350 pour un casque, c'est quand même très, très cher. Mais évidemment, c'est pour le boulot. Hein, faut que je connaisse ce genre de choses. C'est pour le travail. Mais 650, je sais... Je suis le premier à excuser les prix d'Apple et clairement, les gens ont le droit de payer ce qu'ils veulent pour ce qu'ils décident d'acheter. Mais là, j'ai...
On est au-dessus.
Ouais, c'est quand même... Et je me demande si c'est pas parce qu'ils ont connu un tel succès avec les AirPods et ils se sont dit, merde, on aurait peut-être pu les vendre plus cher, les AirPods, il y a 2 ou 3 ans. Peut-être que là, ils se sont dit, bon, on va commencer haut et puis si jamais ça se vend moins bien qu'on l'espère, on pourra toujours baisser. C'est toujours ça le problème. Si tu commences haut, tu peux baisser. Si tu commences bas, tu peux pas monter le prix après. C'est juste pas possible. Donc, je me demande s'il y a pas un peu de ça dans leur réflexion.
Puis, ils vont le vendre. Enfin, ils le savent. Ils savent qu'ils vont vendre. C'est Apple. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur le positionnement. Plus qu'une question de rentabilité, ça te positionne. Chez eux, ils ont ça. Les premiers Sony Milix dont on a commencé à parler et le QC35 de Bose, quand on a commencé à en dire beaucoup de bien, ils étaient quand même à 400 €, voire peut-être même un peu au-dessus, il me semble, à vérifier.
Et puis c'était...
Mais tu vois, ils posaient des bases. Ils posaient des bases et tout le monde, ils arrivaient sur un marché où franchement, tout le monde a dit tout de suite, ils sont au-dessus du lot. Apple, ils t'expliquent qu'eux, ils veulent être au-dessus de ce qui est au-dessus du lot actuellement. Ouais. Donc, tarifairement aussi, il faut le positionner. Je pense qu'il y a ça surtout. Et en effet, comme tu dis, à 629, s'il descend à 550, il restera toujours plus cher que les autres et tu auras eu l'impression de faire une bonne affaire parce que c'est du Apple qui a baissé ses prix. C'est malin.
Oui. À voir. Bon, j'attends de voir la qualité maintenant.
Voilà, moi aussi.
Il y a d'autres petites news. Apple est toujours en train de travailler sur sa voiture. Et puis, on aura peut-être un retour du Touch ID l'année prochaine avec l'iPhone 13, peut-être sous l'écran. C'est avec les masques et le Covid qui risque de se généraliser pour les grippes, peut-être, même en Occident. Peut-être que ça serait intéressant d'avoir un capteur d'empreinte digitale sous l'écran ou peut-être d'avoir les deux. Hein. Moi, j'attends que les deux soient disponibles parce que ça pourrait être utile pour encore plus sécuriser. Comme ça, si on te vole ton téléphone, il faut te voler ton visage et ton doigt.
Ça devient sympa.
petit moment, émouvant dans le monde de la technologie. Flash aura son dernier... Flash d'Adobe aura sa dernière update le 12 janvier et après, c'est fini. End of life pour Flash, ça fait quelque chose quand même. C'est toute une partie de la vie de l'Internet qui était sous-tendue par Flash et qui maintenant, ça fait un moment qu'ils n'existent plus, mais je ne sais pas, le 12 janvier, il faudra boire un coup à sa santé, je pense.
C'est l'émission nostalgie pour Patrick. Je me souviens.
Bon, alors, je vais te proposer un truc qui se tourne vers l'avenir plutôt. Non seulement Reddit a racheté une application de concurrente de TikTok qui s'appelle Dubsmash, qui est un move intéressant pour Reddit, mais surtout, Twitter est en train de mettre en place des fonctionnalités hyper intéressante pour s'insérer dans les autres réseaux sociaux par l'intermédiaire des stories. C'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir partager sur Snapchat, enfin on peut désormais partager sur Snapchat et bientôt sur Instagram des tweets en stories. C'est-à-dire qu'on pourra sur une story Instagram voir un tweet qui sera utilisé dans la story et taper dessus et puis se diriger vers le tweet lui-même dans l'application Twitter. Je trouve ça hyper malin. C'est peut-être une indication sur une stratégie à venir de Twitter. Bon, vu comment ils ont géré les choses jusqu'à maintenant, j'ai peut-être l'impression que c'est juste un gars qui s'est dit « Oh, ça pourrait être pratique de faire ça » et ils l'ont fait et c'est juste une bonne idée. Mais l'idée que Twitter s'insère dans les autres applications de réseau social, je trouve ça assez malin, quoi.
C'est extrêmement malin. J'en ai discuté avec eux juste avant qu'ils l'annoncent de ce truc-là, la Snapchat et donc futur Instagram. En fait, il se passe un truc qui est assez marrant chez Twitter. Ils font pas de bruit, mais ils sont en train de poser des bases depuis quelques mois et d'avoir une stratégie extrêmement claire. Alors, ils ont eu déjà à lutter contre tous les problèmes qu'ils ont sans arrêt, puisque comme ils sont le réseau d'expression numéro un avec ses bons points et ses mauvais points, ils ont déjà un tri à faire là-dedans. Et en fait, ils se sont aperçus. Je pense qu'il leur manque il leur manque une audience. Mmh. Ils ont quasiment toutes les catégories d'âge, sauf les plus jeunes, mmh. aujourd'hui. Ils en ont très peu, mais ceux qu'ils ont sont assez actifs, intelligemment, j'ai envie de te dire. C'est pas négatif quand je dis ça, c'est que un jeune de 13, 14 ans, 12, 4, allez, 13, 15 ans qui vient sur Twitter, il va aller où partager des petites vidéos drôles, mais en fait, il est plus dans le partage que dans l'expression. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de captures d'écran de tweets qui étaient partagés sur Snapchat, qui étaient partagés sur Instagram. Et en fait, ils font une réflexion dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à des jeunes minoritaires actuellement sur Twitter de partager pour faire venir leurs amis. Et en fait, ils vont faire venir les audiences de Snapchat et d'Instagram comme ça, en ouvrant leur réseau. Et c'est assez drôle parce que toi, tout à l'heure, on parlait de Facebook qui avait racheté à gogo pour ouais. tuer la concurrence. Eux, ils ne veulent pas la tuer. Même si là, ils ont sorti Fleet, qui était un espèce de story à Snapchat, pareil. C'est aussi pour drainer cette audience-là, soyons clairs. Enfin, moi, j'ai fait deux Fleets, ça m'a fait rire, et puis j'ai arrêté. C'est pas là que j'ai envie d'en faire, quoi. Mais c'est marrant, cette démarche qu'ils ont d'aller chercher, en fait, d'accepter la concurrence, de tenter parfois de copier, mais ils s'aperçoivent que c'est pas leur réseau, en fait, c'est pas ça. Mais tu vois, de s'ouvrir, je trouve que ça, c'est intéressant dans cette ouais. stratégie d'élargissement, en fait, d'autoriser les gens. Parce que, évidemment, quand tu vas cliquer sur ton tweet dans ta story Instagram ou Snapchat, tu es rebasculé sur Twitter et on t'explique comment bien t'inscrire pour aller
évidemment,
toi aussi à ton tour faire
évidemment.
Des magnifiques stories. Faut pas, ouais. faut pas
bon, Snapchat, c'est une première voilà. étape. Je pense que c'est Instagram qui va être... Encore que les gens qui sont sur Instagram, est-ce qu'ils veulent aller sur Twitter ? Je sais pas.
Ben, en fait, tu sais que tu as énormément de comptes photos. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui dupliquent en fait leur compte Instagram sur des comptes photos sur Twitter. De plus en plus, en fait, on voit ça. Et bah, finalement, là, tu fais la liaison facilement. Et je pense qu'ils ont beaucoup plus de succès sur Instagram. Alors, ils vont pas chercher les jeunes sur Instagram. Ils vont chercher les amateurs de photos, pour moi.
Oui, possible.
Clairement, parce que ils sont très tournés vers l'image et la vidéo sur Twitter. De plus en plus, ils laissent une très très grande place. Ils font beaucoup d'améliorations dans la photo et la vidéo, donc je pense que c'est ça qu'ils vont chercher sur Instagram. Mais je trouve ça très malin comme move. Les deux moves sont extrêmement malins pour des raisons différentes. Voilà, ouais. c'est...
Je serais curieux de voir s'ils prolongent cette idée ailleurs, mais Benoît, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, effectivement, je trouve super intéressant la réflexion, et effectivement, c'est malin, et ça fait partie des choses qu'on aimerait voir plus, parce que c'est vrai que souvent, on voit ces captures d'écran, puis c'est pas l'expérience dont on a envie, donc c'est très très bien. Ouais.
C'est les réseaux, hein. C'est le principe des réseaux, on est en plein dedans, le partage de réseaux.
Mais sur Instagram, je sais pas comment on pourra faire, parce que on peut pas cliquer sur, à moins qu'un compte qui a suffisamment d'abonnés puisse le faire, mais on peut pas avoir un lien externe dans Instagram depuis un sticker, je crois. Si, peut-être qu'on peut. J'avais l'impression.
Ils le mettent sous forme. Ils vont le mettre sous Snapchat et sous Instagram. Normalement, ce sera exactement le même fonctionnement.
Et donc, on peut avoir un sticker qui t'emmène vers un site extérieur sur Instagram.
En fait. Bah,
c'est peut-être un partenariat.
C'est le sticker qui va te renvoyer vers. Comme sur Snap, dans ta story, tu cliques en fait.
Oui. Non, je comprends. Je sais comment ça pourrait fonctionner.
Tu peux pas aller dessus.
Ouais. Non, mais je sais comment ça pourrait fonctionner, mais j'avais l'impression que depuis les stories Instagram, ils sont très restrictifs au niveau des liens externes sur Instagram. Et j'avais l'impression peut-être que sous le feu des procès multiples, Instagram se dit bon, ok, on va vous l'autoriser parce que. Ouais. C'est ça. Quoi d'autre ? Ah, il y a une histoire assez marrante et un petit peu ridicule en même temps. C'est cette histoire australienne. Vous savez que en Australie, il y a eu une loi qui a été votée ou qui est en cours de vote qui imposerait à Google et Facebook de payer les sites de presse dont ils utilisent les titres pour lier vers leurs articles. C'est le sujet dont on a parlé à de multiples reprises un petit peu partout en France, en Europe et parfois même ailleurs. En l'occurrence, en Australie, la loi avait été quasiment acceptée et il y a une concession. En gros, ce qu'ils disent, c'est pour Google News, il faut que Google paye les titres de presse pour utiliser leurs articles en lien dans Google News. Ce que dit Google depuis longtemps, c'est que, oui, vous êtes gentil, mais non, on utilise juste le titre, c'est juste un hyperlien, peut-être qu'on a un mini-extrait, mais surtout, on vous amène du trafic. C'est comme ça que les gens vous trouvent. Donc, nous, on pense que c'est une situation un petit peu bénéfique, mutuelle, on va dire. Les titres de presse en Australie, visiblement, comme c'est le cas en France, n'étaient pas du tout convaincus. Mais il y a un petit changement qui est arrivé sur la loi la semaine dernière, qui est quand même hyper intéressante, c'est que la loi autorise maintenant le trafic envoyé à être considéré comme une partie du paiement que font les réseaux, les sites à ces titres de presse. C'est quand même, alors je suis sûr qu'il y a des limites, que c'est une certaine partie seulement, etc. Mais enfin, c'est quand même d'une ironie suprême, c'est qu'on dit « on veut que vous nous payiez, on veut de l'argent, on veut que vous nous payiez », et finalement, la somme qui va être reçue, en fait, c'est pas de l'argent, c'est le trafic qui était déjà envoyé depuis.
C'est le trafic.
C'est, enfin bon, c'est quand même un peu ridicule, je trouve, mais...
C'est drôle.
Les sommes ne sont pas décidées encore. Hein. Il y aura un comité qui va décider de combien il faut payer s'ils ne sont pas d'accord pour être... enfin, pour, s'ils ne trouvent pas un accord, machin. Au final, peut-être que Google payera, mais je ne sais pas. C'est, ça m'a fait rire, ce développement. Un autre truc intéressant au niveau politique, c'est une volonté de l'Europe, enfin de 11 pays européens, 13 en tout en fait, de développer l'industrie des semi-conducteurs en Europe avec une part du package de pas de développement, mais pour combattre la crise des 440-450 milliards d'euros qui va être... non, c'était pas 450, je sais plus. En tout cas, l'Europe va alloquer, comment on dit en français ? Allouer, voilà, allouer.
Allouer.
145 milliards d'euros, c'est-à-dire un cinquième du fonds total, c'est bien ça, on est autour de, au-dessous de 500 milliards, un cinquième du fonds de recovery du virus à la tech, et il va y avoir dans cette partie du fonds une partie qui va être allouée spécifiquement au développement des semi-conducteurs, enfin de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui est évidemment un élément essentiel de l'indépendance, de l'autonomie, de la suprématie locale, de l'autonomie hein, dont on s'est rendu compte qu'on en avait vraiment besoin. Je sais que certains vont peut-être dire « Ah, mais c'est pas au gouvernement de machin, il faudrait que naturellement... » Oui, peut-être, mais clairement, là, naturellement, ça se fait pas, donc peut-être qu'il faut que les gouvernements aident financièrement le développement de ces choses-là, parce que c'est des enjeux économiques importants, quoi. Et pas que économiques, géopolitiques. Donc, moi, je trouve ça... Enfin, il faudra voir comment ça sera fait, je suis sûr que je trouverai des choses à redire quand on verra les détails, mais je trouve ça quand même pas mal. Oui, dis-moi.
Non, je dis, je suis d'accord avec toi, ce serait une bonne idée de se mettre à l'abri comme ça.
Oui. Ensuite, il faudrait que ça se concrétise. Hein. Ce n'est pas facile de développer une industrie de fonderie de semi-conducteurs, mais si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et pour être clair, je l'ai sous-entendu, mais pour être clair, le gros problème, c'est que si on dépend de la Chine et des États-Unis pour certaines choses, et en particulier la tech, bah si on n'a pas de puce, comme s'en rend compte Huawei maintenant avec les interdictions américaines, si on n'a pas de puce, bah, ce n'est pas juste la tech qui s'arrête. Ça peut être toute l'économie du continent qui est à terre assez rapidement. Donc, c'est important d'avoir cet élément. Quoi d'autre ? Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de Cyberpunk 2077 ?
Je
me doutais que...
Le gros sujet de la semaine.
Je me doutais que ça plairait, oui. Mélinda. Donc, Cyberpunk 2077, c'est le gros jeu vidéo qui est sorti la semaine dernière, qui est l'un des plus gros jeux de l'année, et qui est sorti avec son lot de controverses. Il y avait une quantité de bugs peut-être supérieure même aux quantités de bugs qu'on trouve dans les jeux qui sont déjà buggés. Et pourtant, c'est un jeu qui a été en développement pendant 8 ans chez CD Projekt Red, qui est un gros développeur, ou peut-être qui monte les limites de la taille de ses épaules, parce que c'était un projet qui était peut-être un petit peu trop gros pour eux. C'était un inattendu, un petit peu décevant, et en particulier sur les versions consoles, les premières consoles de la génération précédente, c'est-à-dire les PlayStation 4 et Xbox One de base, la qualité du jeu est vraiment décevante. Melinda, bon, toi, t'es une gameuse, tu es prête à... Ils ont même carrément, CD Projekt Red, le développeur, a carrément lancé un processus d'aide au remboursement, c'est-à-dire que si on a acheté le jeu sur une plateforme où il est généralement difficile de se faire rembourser, comme la PlayStation 4 ou la Xbox One, il y a plus de facilité à se faire rembourser sur PC généralement, et ben, ils vous proposent d'appeler leur support pour vous aider à vous faire rembourser auprès de l'entité tierce qu'est Sony ou Microsoft. C'est quand même une débandade quand on en a rarement vu dans les jeux vidéo, et pourtant il y en a eu au niveau des jeux. Généralement, c'est du matériel qui est défectueux qui provoque ce genre de débandade. Là, c'est particulier, quoi.
Bah là, c'est la catastrophe d'avoir voulu lancer un jeu extrêmement ambitieux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça surtout. Cyberpunk, c'est avant tout un jeu extrêmement ambitieux, d'avoir voulu le lancer sur deux générations de consoles, des PC, on sait que les PC, il y a plusieurs formats, Stadia et tout. Je pense qu'ils se sont fait complètement déborder par l'engouement que suscite ce jeu depuis des années et les attentes. Je pense qu'ils auraient mieux fait de le sortir en version PC d'abord, de dire, d'assumer, voilà, vous l'attendez, mais on vous a fait une version PC, nickel d'abord, les autres arrivent, chacun arrive à son tour. Là, ils ont tout lancé en même temps et donc tout est catastrophique. Et évidemment, ce jeu, honnêtement, j'ai presque envie de dire, on l'a senti venir. Les phases de test pour la presse, ça a été d'abord les versions PC envoyées, puis les versions de console.
Donc non, là, mais même les versions console, elles sont arrivées par la... Enfin, elles n'ont pas été envoyées par CD Projekt. Il a fallu les attendre, de les acheter. Ils n'ont pas du tout montré
la version test. La version test, en fait, pour la presse,
c'était
ils ont
PC.
D'abord servi les gens qui testaient sur PC. On a eu la version console la veille ou l'avant-veille, enfin, tout un truc comme ça. Honnêtement, nous, quand on voit ça, quand on sait que toutes les versions n'arrivent pas en même temps, on sait qu'il y a un loup, quoi. Soyons clairs, il y a un loup. Quand le version PC arrive avant les versions consoles, honnêtement, c'est extrêmement mauvais signe. Oui. C'est très, très mauvais signe. Alors, Stadia, on l'a eu le jour de la sortie, mais ça, on savait. C'est le fonctionnement de Google. Et résultat, la version Stadia est meilleure. En tout cas, au lancement, était bien meilleure que les versions consoles. Mais ça, c'était mauvais signe. C'est un jeu. C'était évident que sur les toutes premières consoles de la génération précédente, maintenant, on doit dire, ça allait être une cata. Moi je l'ai lancé sur One X déjà, c'était pas terrible, mais sur One X, t'imagines, même pas sur une One toute seule, ils ont été débordés par leur succès. Pour moi, c'est ça la vraie conclusion de tout ça. C'est un jeu qui est quand même déjà retardé, hein, qui devait sortir il y a quelques mois, qui est retardé. Il y a eu trop d'attentes, et je pense qu'ils n'ont pas su gérer tout cet engouement. Ils auraient dû restreindre, vraiment restreindre. Tu vois, Stadia, ça devait sortir que l'année prochaine ou plus tard. Enfin, ça devait sortir plus tard que les premiers lancements. Au final, c'est un jeu qui était annoncé pour le jour de la sortie également sur Stadia. On sait que c'est une autre plateforme de développement. Ils se sont foutus, mais des bâtons dans les roues, mais tout seuls, quoi. Vraiment tout seuls sur ce lancement. Ils vont passer leur temps à faire des patchs de rattrapage. Il y en a déjà qui sont sortis là. Notamment sur le problème d'épilepsie. Enfin, ça, c'était pareil, tu vois.
C'est pour ça que je pense qu'ils ont eu vraiment les yeux plus gros que le ventre. Ils n'avaient pas les épaules pour ça, malgré leur succès avec The Witcher 3. Alors, il y a quand même des gens qui apprécient le jeu. Hein. Je crois que... Voilà, tu es un exemple. J'ai eu plein de gens, parce qu'on en a parlé dans le rendez-vous jeu, et l'un de nos co-animateurs, Benoît, était particulièrement monté. Il y a des gens qui me disent, mais non, moi je l'aime bien, il y a ceci, cela. Ce qui est clair, c'est que, évidemment, il y a des gens qui l'aiment bien, bah, Melinda, voilà, mais le lancement était l'un des pires lancements de l'histoire.
Et puis, il y avait une tolérance zéro. Il y avait une tolérance zéro sur ce jeu. Il le savait, c'est ça, en fait. Je pense que on a vu des Assassin's Creed arriver. Moi, je me souviens d'Unity, qui était une catastrophe. Il y avait quand même plus de 300 bugs au lancement de Assassin's Creed Unity. Et Ubisoft s'est fait taper sur les doigts, mais il n'y avait pas la même attente que sur Cyberpunk.
Non, et puis même, et c'était, pas un, c'était pas un aussi gros, d'aussi gros bug. Là, on a quand même les versions de base qui sont... Alors, par moment, ça passe, mais par moment, les textures mettent tellement de temps à se charger. Bref, tout ça pour dire que c'était un événement qui était tellement gros. Si vous avez une petite nièce qui vous demande... bon, déjà, c'est un jeu qui est très mature, donc pas avant 18 ans, ça c'est clair.
Non, ouais.
Mais si vous avez une petite nièce ou un petit neveu de 18 ans qui vous demande Cyberpunk, demandez-lui, tu es sûr que tu veux Cyberpunk? Parce que j'ai entendu qu'il n'était pas en état. Alors, à moins qu'elle ait un PC de guerre super puissant, et là, ça tournera peut-être correctement, mais bon... ou alors une PS5 ou une Xbox Series X qui font tourner le jeu de la génération précédente plus ou moins correctement, on va dire. Bon, dernier truc que je voulais mentionner avant de conclure l'émission, c'était le Amazon Halo. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Amazon Halo? H-A-L-O, pas A-L-O.
C'est pas le drone?
Non, pas du tout. Quoi? C'est le petit bracelet... Voilà, c'est le petit bracelet qui, si vous le souhaitez, alors c'est un bracelet qui mesure votre santé, on va dire, et la fonctionnalité marrante par rapport aux autres bracelets, c'est qu'il peut écouter tout ce que vous dites et vous faire un rapport sur l'état de santé, d'agitation, de calme, etc., dont vous faites preuve au cours de la journée. Il peut vous dire, par exemple, de 11h à 11h30, vous avez été un petit peu énervé, semble-t-il, ou ce genre de choses. Et évidemment, ça provoque... Alors, selon Amazon, ces informations, les enregistrements, eux, restent sur votre téléphone. Ils sont analysés sur votre téléphone, parce que, bien sûr, le bracelet est connecté au téléphone. Et ça reste sur le téléphone, mais les données en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont ramenées chez Amazon? Est-ce que, enfin, et on a très peu d'informations là-dessus, et donc les sénateurs américains, encore eux, commencent à s'intéresser à cette question également, en se disant, mais est-ce que si c'est des données de santé, qu'est-ce que vous en faites? Enfin, c'est des données qui sont essentiellement pas essentiellement, mais qui sont aussi basés sur la voix, sur le rythme de parole, sur les intonations, etc. Donc, c'est encore une nouvelle catégorie par rapport à ce qu'on connaissait ailleurs. Quoi. C'est... Je ne sais même pas si c'est inquiétant. Mais... Benoît, vas-y.
On a lancé une start-up il y a presque beaucoup d'années, allez. Mais qui faisait exactement ça, en fait. Qui faisait de l'analyse vocale, qui te permettait de définir les émotions. Alors, ça peut être utilisé dans les call centers. Mais ça, je n'avais pas encore vu utilisé en wearable. Je trouve ça hyper intéressant. Et comme quoi, j'avais raison 10 ans avant tout le monde.
10 ans trop tôt, Benoît. Alors, c'est toi qui vas commencer à nous parler des oranges de Noël, c'est ça?
Exact. En même temps, on ne pouvait pas le faire sur ces espèces de bandes. On devait avoir une chambre entière pour faire la puissance de calcul. Ah, mais bon, super intéressant. Et je vais voir, je pense que je vais l'acheter, ce truc. Ça m'intéresse.
Ouais, écoute, comme le dit la chatroom, Tony dans la chatroom, mais il faut avoir confiance, Amazon, ils n'en ont rien à faire de nos données, ça ne va pas les intéresser, bien sûr.
C'est clair. Ah non, mais moi, je me souviens quand ils ont annoncé ça, j'ai trouvé, en fait, ça m'a vraiment posé un problème. Pourtant, je suis très gadget et tout, et je me dis qu'on sait à quel point Alexa écoute absolument tout. Je suis sûre que là, dans la pièce où je suis, j'ai dû Alexa. Elle est en train de se faire un petit enregistrement de l'émission pour se faire un replay après. Mmh. Mais elle écoute, enfin, ça écoute absolument tout. Et en plus, cette appli-là, le Halo Band, en plus, te demande des photos de ton corps, de prendre des photos de ton corps pour les stocker, les analyser. Il saura absolument tout de vos
émotions.
Pour
analyser, c'est... pour analyser, pour voir le poids et l'évolution du poids, etc.
Ouais, voilà, l'évolution et tout. En gros, il prend ta voix, ton corps, et là, tu dis, bon, derrière, il fait quoi? Il me recrée virtuellement. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est complètement idiot, mais en effet, je crois que j'aurais plus de facilité à donner ces infos-là à Apple, et avec la garantie, normalement, que derrière, ça ne sort pas de mon téléphone, qu'à Alexa. Enfin, quand même,
mais c'est pas idiot, c'est comme on le dit à chaque fois, une question de business model. D'où vient l'argent d'Apple? Voilà. C'est pour vendre des trucs. Amazon, bon, ils sont pas Google au niveau de l'exploitation des données, ou Facebook,
mais quand même.
Ouais.
Et tu vois, je trouve, en fait, j'aime bien l'idée, mais il y a quelque chose qui m'inquiète encore dans l'usage qui peut être fait de toutes ces informations qu'on va filer. Et je trouve que la voix, alors là pour le coup, à la voix, on touche à quelque chose d'extrêmement personnel.
C'est ça, c'est quelque chose de différent. Hein. C'est vraiment, ça analyse tes émotions dans ta voix.
Ouais, c'est pas quantitatif en fait. T'es pas, je sais pas, combien t'as mangé, tes calories, des choses comme ça. C'est du quantitatif, ça peut être toi, ton voisin, n'importe. Ta voix, c'est vraiment personnel. Et les photos pour ton physique, c'est à toi. Et là, je trouve que, pour le coup, on touche vraiment à la personne. Et c'est là où je trouve qu'il faut vraiment des garde-fous. Je comprends tout à fait, tu vois, qu'il y a des gens que ça inquiète, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Eh bien, écoutez, c'est sur ces inquiétudes que nous allons conclure l'émission avec toujours plein de bonne humeur. Avant de se quitter, j'aimerais vous demander à tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer par Mélinda, honneur aux dames. Où es-tu sur Internet, dis-nous?
Eh bien, moi, je suis sur le site de Frandroid. Ça, vous pouvez nous retrouver tout le temps pour toute l'actualité. Et sinon, sur Twitter, eh ben, c'est Mélinda _ DS. Donc, _, c'est le petit trait du bas, comme on dit.
Très bien. Merci beaucoup, Mélinda. Benoît, où es-tu?
Alors, pour ma part, bien sûr, niptech.com, si vous voulez écouter les émissions de temps en temps. Et sinon, pour les retours et autres, @bcurdy sur Twitter. Voilà, c'est le plus simple pour discuter.
Super, bah les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, bien sûr, tout comme le mien, NotePatrick. Sur notepatrick.com, vous retrouvez tous les liens, y compris le Discord, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, et bien sûr, les liens vers le Patreon du Rendez-vous Tech, qui vous permet de le soutenir et qui vous permet de transformer votre subtil sentiment de culpabilité quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol. Quand ça fait cling, vous dites « Ah, cling, Patrick, je ne le soutiens pas encore », et bien vous transformez ce sentiment en « cling, Patrick ». Quelle fierté de soutenir une émission d'une telle qualité. Ça vous fait sourire, mais je suis en train de m'immiscer discrètement dans votre cerveau. Et à un moment, ça finira par faire un déclic et vous direz « Ah, bon, bah, peut-être que je vais aller voir sur patreon.com/rdvtech ». On remercie en tout cas tous ceux qui le font déjà. C'est tout pour cet épisode. On vous fait de grosses bises et on se retrouve dans une semaine pour le dernier épisode avant Noël. Que va-t-il se passer ? Rejoignez-nous à ce moment pour le savoir. Ciao à tous.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.